Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Girafe, je suis Raphaël, le R de Girafe. Je reçois aujourd'hui Nicolas Sarrazin, entrepreneur à vrai dans l'immobilier, qui se définit lui-même comme un créateur d'histoire immobilière. Il dirige la société Estime, qui est une foncière. Je vous propose maintenant donc de passer quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur avec Nicolas Sarrazin. Salut Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, tu vas partir sur... On va t'accompagner dans ton parcours d'entrepreneur. L'idée, c'est de faire ça en deux volets, comme je le fais sur toutes les interviews. C'est-à-dire qu'un premier volet, ça va te concerner. On voudrait savoir qui tu es et comment tu as déroulé ton parcours professionnel, ton parcours entrepreneurial. Et puis une deuxième partie, après une pause musicale, ce sera sur Le Havre et ta relation au Havre et les perspectives que tu en as. Alors ça relève du sentimental, du pragmatique, enfin, on échangera sur ce sujet-là. Donc écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ?
Ben Nicolas, j'ai découvert Le Havre par le biais des études. Donc je suis le parfait exemple des étudiants arrivant au Havre et qui n'auraient jamais connu Le Havre s'ils n'avaient pas eu accès aux études supérieures.
Donc tu n'es pas à vrai.
Et je ne suis pas à vrai. Et comme souvent des gens qui ne sont pas à vrai, on s'intéresse encore beaucoup plus à l'histoire de la ville qui nous a accueillis que souvent beaucoup de Havrais. Et on s'aperçoit que même beaucoup d'historiens sur Le Havre sont souvent des non-Havrais au départ. Donc une vraie découverte, un vrai coup de cœur pour les Havrais, pour la ville, pour l'histoire, pour le renouveau. Enfin, voilà, je suis devenu certainement pour beaucoup plus Havrais qu'Havrais. Souvent, on me demande si je suis... les gens sont surpris qu'aujourd'hui, je ne suis pas du Havre.
T'es d'où alors ?
Je suis de Normandie. Hein. J'habite à une centaine de kilomètres du Havre. Je viens d'un endroit dans pleine campagne. Et évidemment, la ville avec ses lumières, c'était Rouen, Le Havre ou Caen, c'était Le Havre.
Bon, donc, ok. Donc t'es arrivé pour tes études au Havre.
Bien sûr.
Et tu l'as plus quitté.
Je l'ai pu quitter, j'ai fait mes études au Havre et j'avais la chance depuis tout gamin de savoir quel métier je voulais faire. Je voulais faire de l'immobilier.
Ah donc toi tu fais partie de ces entrepreneurs, enfin, en tout cas de ces jeunes qui avaient déjà une passion. Il n'y a pas eu d'ambiguïté sur ton parcours.
Ah non, c'était une vraie chance. Ouais. Quand on est en pleine campagne comme je l'étais et qu'on regarde autour de soi, on regardait quoi dans notre village ? Le pharmacien, l'assureur, le notaire ou l'agent immobilier Donc finalement l'immobilier m'a attiré. J'ai fait mes études au Havre, je suis parti faire un troisième cycle en Angleterre et j'ai travaillé dans une étude de notaire en Angleterre, dans une ville qui s'appelait Portsmouth. Puis c'était le cousin germain du Havre, donc ça m'allait bien et je suis revenu au Havre.
Et tu reviens au Havre, suite à tes études, tu décides d'y rester ?
Je décide d'y rester, une opportunité professionnelle, je rentre salarié dans une agence immobilière. En pleine crise immobilière, on était en pleine guerre du Golfe. Hein, donc
c'est quoi les années 90 ?
On est dans les années 90, toujours à l'époque où tout le monde vous dit c'est pas le moment. En tout sens, hein. J'ai appris dans ma carrière que chaque fois qu'on me disait que c'était pas le moment, c'est que c'est surtout à ce moment-là qu'il fallait le faire. Faut surtout pas faire quand tout le monde vous dit c'est exactement la bonne idée et c'est exactement le bon moment. Donc ça, c'est la règle de base. Donc maintenant, je le sais. Quand on me dit c'est pas le moment, c'est exactement là où ça m'intéresse. Donc
c'est vrai qu'on en parlera un peu dans notre interview, mais t'as un peu ce profil-là.
Donc ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait cette carrière dans l'immobilier. Et rapidement, au bout de quelques années, à l'âge de 25 ans, j'ai eu l'occasion de... Je savais que je finirais par être un mauvais salarié parce que tu finis par contester les règles, tu finis par contester l'ordre établi, l'autorité. Il y a toujours des choses qui ne vont pas si vite. On commence à devenir un peu rebelle. Donc la première chose, quand on devient un peu rebelle, eh ben, il n'y a pas de choix.
Pas d'alternative.
Et alternative, il faut changer le système. Si on veut
d'ailleurs,
changer
tu penses que c'est un trait de caractère d'un entrepreneur, ça ?
Je pense que tous les 80% des entrepreneurs que j'ai rencontrés finissaient par être des mauvais salariés à un moment donné. Parce qu'ils voulaient faire changer le système, ça n'allait pas assez vite. Ils commençaient à reprocher des choses à leur direction, au système, à leurs collègues. Donc à un moment donné, quand tu ne peux plus faire avancer le système, il n'y a pas le choix. Ce n'est pas le système qui va bouger, c'est toi qui bouge et puis tu fais ton propre système. C'est le trait commun de beaucoup de gens que je rencontre. Et souvent, quand je les entends râler, je dis à ton niveau maintenant.
De toute façon, tu feras. Prends ta vie en main.
Prends ta vie en main. C'est toi qui décides. Tu choisis tes chaînes, tu choisis la taille de ta cage, et au moins, c'est toi qui as choisi la taille des barreaux. Donc déjà, tu es quand même plus acteur.
Ah oui, tu fais quand même un parallèle avec la taille des barreaux, parce qu'on associe, parce que entreprendre, littéralement, ça veut dire prendre sa vie entre ses mains, bon, ça c'est l'étymologie du terme, mais c'est pas pour autant qu'il faut mélanger ça avec la liberté.
Ah bah non.
Parce que ça va être un sujet qu'on va peut-être aborder après. Mais...
Oui, c'est un vaste sujet, ça, mais il n'y a pas du tout de liberté. On a plein de contraintes, mais on les choisit, on les assume, et comme on les a assumées, on les accepte plus facilement.
Donc Nicolas, tu te retrouves salarié, à un moment tu fais ce constat-là, tu as 25 ans, et tu dis je reste au Havre et je me lance, le secteur me passionne, je suis bien, j'ai compris que ce secteur-là allait être le secteur dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir. Et là, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on bascule de salarié avec cette, entre guillemets, sécurité du salarié, avec des revenus relativement... Alors peut-être que dans l'immobilier, c'est un peu particulier, parce que tu as beaucoup de commissions, j'imagine, donc tu as peut-être moins de revenus sécurisants, mais tu quittes quand même une sphère sécurisante vers le grand bain, l'entrepreneur.
Bah, c'est toujours cet effet de ras-le-bol à un moment donné, puis on sait qu'à un moment donné, on est happé par ça. Donc alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul. J'avais la chance d'être bien accompagné, d'avoir une femme avec qui je suis toujours, et ça a été plus facile pour prendre des décisions, qui a accepté le risque financier, parce qu'on ne se lance pas entrepreneur. Un entrepreneur, il sait que pendant 2 ans ou 3 ans, il ne va pas gagner sa vie. Donc il faut qu'en face de lui, y ait quelqu'un qui puisse l'assumer, qui puisse l'aider, et surtout qui accepte de ne pas lui reprocher tous les samedis ou à chaque fin de mois.
Donc le partage du risque.
Sinon, s'il n'y a pas ce partage de risque, ça ne marche pas. Donc moral, financier, voilà, c'est vraiment important. Donc ça ne se fait pas comme ça tout seul. Donc je pense que... Parce que fatalement, quand vous vous lancez jeune autour de vous, si vous n'êtes pas d'une famille d'entrepreneurs, vous n'aurez pas forcément le soutien. Vos parents auront peur, vos frères et sœurs ne sont pas forcément dans la même dynamique. Il y aura toujours des bonnes âmes pour vous dire que ce n'est pas le moment, que vous êtes trop jeune, que vous n'avez pas encore assez d'expérience, que c'est dangereux, qu'eux, ils savent. Puis après, c'est les mêmes qui vous disent « j'aurais dû le faire » ou « j'aurais pu le faire, mais j'ai choisi de ne pas le faire ». Enfin voilà, donc c'est les fameux conseillers dans ces moments-là qui ne sont pas les payeurs. Hein, donc on connaît bien le proverbe. Donc... l'opportunité, et puis après...
Donc tu prends la décision, c'est une décision non pas de... Parce que dans les différentes interviews que j'ai pu faire, il y a la rencontre qui est l'associé. Toi, ta rencontre, enfin ta décision, elle part familialement d'une décision commune, mais c'est pas un associé qui t'a poussé à faire ça.
Non. Oui, je sais que c'est souvent le prétexte pour une entreprise. Alors moi, jamais. Non. Mais c'est comme... je prends souvent une image quand on parle d'entreprise avec des étudiants, et je leur dis souvent qu'il faut être sur un quai de la gare pour être prêt à prendre un train. Parce que si on reste dans sa chambre, le chef de gare ne va pas venir vous voir pour dire « ça y est, le train est arrivé, tu peux monter dedans, on attend, après toi, fais ta valise, parle-en à ta famille ». Donc il faut déjà être sur le quai de la gare, faire sa valise et être prêt à monter dans un train. Après, vous pouvez choisir un mauvais train, mais vous êtes déjà parti, vous êtes déjà dans le voyage. Donc, et à un moment donné, j'étais avec ma valise et j'avais envie de faire quelque chose. Donc après, j'ai eu une opportunité qui est passée, où il y avait une agence à reprendre. Dans un monde normal, si je n'avais pas été aussi motivé à l'époque, je ne l'aurais pas fait, parce qu'on m'appelle et on me dit, voilà, il y a une agence à reprendre, mais on n'a pas le droit de la visiter, vous n'avez pas le droit d'avoir les chiffres, vous n'avez pas le droit de rencontrer le personnel, vous n'avez pas le droit de rencontrer le gérant.
Ah oui, ça fait quand même beaucoup d'endroits.
Vous avez une petite lampe et vous avez le droit de regarder par la fenêtre et dire, si ça vous plaît, on se met d'accord, mais surtout, on n'en parle à personne. Donc, c'est des conditions pour reprendre une société que vous n'acceptez jamais dans un monde normal. Mais vous êtes fou, vous
êtes
jeune.
Toi, aujourd'hui, avec l'expérience, oui, tu...
aujourd'hui, ouais. Quelqu'un me dirait ça, je dirais non. Mais vous avez tellement envie à 25 ans, donc il y a plein de choses où vous dites que ça va le faire quand même. Et puis c'est comme ça qu'on crée des entreprises. Si on avait fait toutes les études de marché sur tous les concepts d'entreprise, par définition, on met des concepts qui n'existent pas souvent, ou le marché, on va le créer parce qu'il n'existe pas. Donc si vous allez voir votre banquier, il va vous dire « je fous l'étude de marché » sur un concept où je suis en train de créer une voie, créer un marché. Enfin, ça a été ma vie, ça. Donc l'étude de marché, c'est pas la peine. Si vous l'avez déjà, c'est qu'il y a déjà quelques entreprises qui sont déjà installées et que le marché n'est peut-être plus là.
Donc là, tu as saisi une opportunité. Enfin,
voilà. On a repris l'entreprise, mais c'était le prétexte. Mais c'est comme prendre un prétexte de partir avec un associé. C'est une opportunité qui passe, qui fait que on y va, et c'est le prétexte de lancer. Et après, c'est pas forcément le bon vecteur, le bon moment. Mais une fois qu'on est dedans, puis qu'on a les deux pieds dedans, on y va. Et on s'adapte.
C'est le mouvement, finalement.
Voilà. Et puis après, il y a les rencontres. Ouais. Puis quand vous êtes dans cette situation-là, on fait plein de rencontres.
Oui, on est soutenu quand même. Il y a un écosystème, là, justement. Tu as rencontré un écosystème qui t'a un peu aidé Parce que tu dis que familialement, tu n'étais pas forcément dans un milieu d'entrepreneur. Là, quand tu as décidé de te lancer, on parle souvent de la chambre de commerce ou ce genre de choses, où toi, tu es vraiment allé...
Ouais, mais pour les activités que nous, on fait... Enfin, dans mes activités, il n'y a pas d'écosystème pour nous, pour nous lancer. Et puis on perdrait trop de temps à aller chercher l'écosystème. Et après, une fois que vous l'avez repris, il faut vite la faire fonctionner.
Donc là, tu reprends une agence, tu reprends du personnel,
ouais.
Tu rachètes un fonds de commerce, finalement.
Exactement,
fonds de commerce. avec du personnel dedans.
Oui, qui a appris en cours de route que c'était vendu parce qu'ils n'étaient pas payés. Et ils apprennent par le marché que finalement, leur nouveau patron, c'était moi, mais que personne ne leur avait dit. On n'avait pas encore signé. Et un jour, il m'appelle, il me dit, c'est vous, vous êtes au courant, parce que notre ancien responsable a disparu, on ne sait pas où il est.
Ah oui, donc toi, tu as commencé dans des conditions très particulières, quand même. Donc,
moi, j'ai cherché mon ancien vendeur et l'ancien responsable de l'entreprise. Donc, il a fallu... Je lui dis, mais il ne vous a rien dit.
Ah, donc tu rentres. On te remet quand même les clés. Non, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que tu as acheté quelque chose que tu avais à peine analysé, finalement.
Je n'avais pas pu le voir. Je rencontre des gens qui me disent, c'est vous qui allez être notre patron. C'est vous qui allez nous régler nos salaires. Vous savez où est notre ancien patron. Et j'étais au courant de rien.
Alors, tu es quand même très jeune. Donc là, tu vas te retrouver dans le grand bain à manager... Il va falloir que tu pilotes une équipe.
T'as pas le temps de poser de questions. À un moment donné, t'es dedans. Donc, tu dis, on règle les problèmes un par un. D'abord, retrouver le vendeur.
Donc, le premier jour, t'arrives, tu rentres dans l'agence, combien de collaborateurs ?
Mais sans légitimité. Il y en avait 4 à l'époque.
Ah oui.
Et sans légitimité. Je ne sais même pas où il était.
Oui, sauf que tu viens de ce milieu-là.
Je viens de ce milieu-là. Donc, je connais les... Ça fait 5 ans que j'y suis. Je connais un peu les choses trap. Il y a quand même... C'est la première règle dans l'entreprise. Il faut être dans un environnement qu'on connaît. Commencer dans un environnement où on ne connaît pas du tout le contexte, c'est déjà une difficulté. Ouais. Être dans une ville où on connaît déjà un petit peu les réseaux. Donc c'est quand vous êtes déjà dans une ville, dans un univers que vous connaissez géographique, et puis dans un univers professionnel que vous connaissez, vous avez déjà fait 60% du chemin.
Donc là, tu reprends cette entreprise, il va falloir que tu la restructures. Comment elle s'appelait, cette entreprise ?
Elle s'appelait Présence Immobilière.
Présence Immobilière. Donc tu reprends cette entreprise, vous êtes 4.
Puis on l'a développée.
Et après, tu es parti...
Après, on a racheté d'autres, on l'a développée, on a développé tous les métiers autour, gestion, immobilier entreprise. On est rentré dans un réseau qui s'appelait Orpi à l'époque, et puis j'ai gravi tous les échelons. Je suis devenu président du réseau local... Après, je suis monté jusqu'au réseau national où je suis devenu vice-président national. Pendant une durée, on a développé plein d'activités autour et on a fini dans le peloton des plus grosses agences à Vraise. Ça a été une belle expérience.
C'est une belle expérience. Non, tu dis ça de façon assez normale, mais c'est quand même un parcours qui est quand même très...
C'était un parcours passionnant et passionné. Et en même temps, tout a été tellement vite qu'arrivé à 40 ans, on a vu le parcours de gens... peut-être plus âgé. Et c'est le problème des entrepreneurs, c'est que ce qui est intéressant, c'est le mouvement. C'est intéressant, c'est de progresser, c'est de développer, c'est de prendre des parts de marché. Et quand vous êtes arrivé à un point où vous devez maintenir vos parts de marché...
Du plafond de verre.
C'est le plafond de verre. Et puis vous êtes dans des activités... Moi, dans mon activité, on ne pouvait pas s'étendre vraiment beaucoup dans la région. Ça dépendait des opportunités qu'il y avait. Donc là, il a fallu prendre une décision. C'est vrai qu'on avait... J'avais une quarantaine d'années à l'époque. On était vraiment arrivé.
Là, ça fait 15 ans que tu fais ce métier.
Oui, ça faisait 15 ans que j'ai ce métier.
Enfin, 15 ans entrepreneur et une vingtaine d'années que tu étais dans le...
Exactement.
Donc là, tu as l'entreprise et c'est intéressant, c'est l'entrepreneur qui y va avec cette volonté chevillée au corps de pouvoir développer quelque chose. Et tu arrives à 40 ans avec, parce que j'ai quand même suivi, on se connaissait déjà à l'époque, il y avait ta volonté d'innovation, de mouvement, de ce besoin d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu après, mais ce besoin d'ailleurs est de créer. Tu es un vrai créateur en plus.
L'avantage, c'est comme j'avais...
Un vrai créatif peut-être.
Oui, je suis plus créatif. L'avantage, c'est que j'avais une adhésion à un réseau national qui était une coopérative. Et l'intérêt de la coopérative me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un côté grand frère, c'est-à-dire que c'était une entreprise en commun les uns les autres. Il y avait une cinquantaine de fédérations en France. On pouvait aller chercher des expériences dans différentes régions. On rencontrait des gens qui pouvaient se livrer et puis échanger. Ça a été des vraies rencontres humaines.
Oui, donc tu as vraiment en plus ce profil de chef d'entreprise, parce que tu peux être entrepreneur et être indépendant ou autre. Toi, l'effet de meute, t'as vraiment servi.
J'adore former. J'adore transmettre et former. Et donc, j'ai beaucoup aimé au niveau national aller intégrer des nouvelles personnes. Et puis, quand j'étais à la tête du réseau Orpi National, j'ai aimé aller voir ce qui se passait à l'étranger. J'ai aimé aller visiter Facebook. J'avais emmené tout le monde pour voir aux États-Unis comment allait évoluer notre métier, avec une dizaine d'années d'avance. Donc, on était ce qu'on appelait des early adopteurs. Donc, on était des agences un peu référentes où on testait plein de choses. Ce qui était intéressant, c'était le test.
Oui, donc tu étais quand même très précurseur.
On a testé, oui. On a été les premiers à vouloir mettre du home staging. On testait dans des métiers qui étaient très traditionnels. où quand on faisait des études, on disait bah, est-ce que vous avez trouvé un nouveau concept quand le résultat de l'étude arrivait ? Qu'est-ce qu'on pourrait développer ? Et finalement, bah, c'était toujours décevant. Le métier était très traditionnel. On nous demandait de faire bien notre métier, comme une agence du coin de la rue. Et puis, et c'était un peu frustrant pour moi qui avait besoin de cette création. Et j'avais du mal à m'en contenter dans mon métier de base.
C'est pour ça. Alors, on va venir sur un sujet qui est intéressant, c'est l'innovation. Parce que là, tu parles de créativité. On sent bien que la boîte était peut-être un peu trop petite et que tu avais besoin d'aller ailleurs. L'innovation et l'ambition, parce que c'est les deux termes que je voudrais aborder. L'ambition, on en parle visiblement, elle n'est pas financière chez toi.
Non.
Non, enfin, je veux dire, quand tu as créé la boîte, c'était pas. D'ailleurs, on retrouve, c'est un trait commun qu'on trouve quand même chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est rarement, bon, en tout cas quand c'est l'argent, ça ne mène pas forcément à de grandes histoires. Et après, la vision et l'ambition. Quelle ambition tu avais quand tu as repris ? Quelle ambition, comment elle a évolué dans le temps ? Est-ce que tu pourrais définir ton ambition d'il y a 30 ans comme étant la même ambition aujourd'hui quand tu t'attelles à un projet ? Est-ce que ça a modifié quelque chose chez toi, le fait de te lancer quand même dans l'indépendance quand même ?
Alors, à l'époque où je me suis lancé, alors on dit que l'argent n'est pas une ambition, n'est pas
une fin en soi,
mais c'est le premier critère d'évaluation vis-à-vis de nos banques et vis-à-vis de l'extérieur. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, vous pouvez avoir le meilleur entrepreneur, et si votre chiffre d'affaires, il n'est pas bon et que vous avez des marges zéro, vous ne durez pas longtemps, puis vous n'êtes pas reconnu par vos frères en tant que tels, dans la profession. Donc, il est évident que l'argent fait partie, puis sans argent, pas de projet.
Ouais.
Bon, et il faut avoir envie de gagner de l'argent. À l'époque, quand on s'est lancé, mon ambition, c'était évidemment de l'ego, une forme de reconnaissance, n'étant pas du Havre, faire partie des gens reconnus dans la profession, mais le faire intelligemment. C'est-à-dire qu'on me souvient qu'on a fait partie des premiers à créer le BTVS des professions immobilières pour pouvoir transmettre. C'est-à-dire que j'avais tellement souffert que ce métier soit un des métiers les plus décriés de France. Je crois qu'on devait passer derrière les garagistes en termes de code de code de notoriété. Donc on était vraiment très bas. Ouais. Même les assureurs étaient passés devant nous. Donc je voulais vraiment redorer le blason de cette profession avec cette passion. Donc former des jeunes, leur donner des codes d'éthique, développer un esprit maison. Apporter de l'expertise et puis transmettre. Moi, j'ai transmis beaucoup de jeunes. Donc, on me posait souvent des questions. Même quand des confrères voulaient s'installer, j'étais le premier à les aider. Beaucoup de confrères aujourd'hui installés, compagnons, qui ont une très belle réussite au Havre, étaient surpris de me dire l'autre jour, je me souviens, quand je suis venu, j'ai été te voir pour te demander des renseignements et j'étais surpris que tu sois aussi ouvert et que tu n'aies pas peur que je sois ton concurrent demain. Mais bien au contraire, j'ai jamais eu peur de la concurrence et meilleurs sont-ils. Plus professionnels sont-ils, et puis meilleur est le marché pour tout le monde. Le pire, c'est celui qui fait mal, qui donne une mauvaise image.
Oui, donc il y a une vraie logique de professionnalisme.
Enfin, ah, ça, c'est
chevillé au corps. Toi, tu veux de la qualité. Enfin, ça s'est ressenti d'ailleurs dans tes projets, c'est d'arriver à développer quelque chose dans le temps déjà. La durée, c'est un vrai vecteur. Et après, de qualité.
Puis être fier de ce qu'on a fait, être fier. Il y a aussi, faut pas oublier, la transmission. On est là sur Terre pour transmettre. Être fier de se retourner, de dire à ses enfants, de rencontrer des gens dans la rue. Et de pas être obligé de changer de trottoir, parce qu'on n'a pas été correct.
surtout dans une ville comme la nôtre, dans les villes de Provence,
c'est pas possible. Il faut être fier de retourner dans un endroit qu'on a réalisé quelques années après et de dire oui, il a bien vieilli, les gens ont l'air heureux dedans. Donc, quand vous faites ces métiers-là, vous participez à la vie des gens. Donc, fatalement, que ce soit dans l'immobilier entreprise, la location ou la transaction, on avait coutume de dire qu'on déménageait 3000 personnes par an. Donc 3000 personnes par an, c'est des villages entiers. Des gens qui choisissent des locaux. Si les locaux sont bien choisis pour des locaux professionnels, ça peut définir une vraie orientation professionnelle, une vraie réussite professionnelle.
D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose quand je t'écoute. Là, tu es quand même très empreint d'une responsabilité sociétale, qui n'est pas forcément la marque de fabrique de l'agent immobilier.
Enfin,
mais là, on voit bien que cette envie de transmettre et ça va nous amener d'ailleurs à peut-être à discuter de cette deuxième partie où toi, tu as développé autre chose par la foncière. Mais j'ai toujours ressenti chez toi cette responsabilité sociétale qui est très à la mode en ce moment. On parle du RSE un peu partout.
Oui.
Tu étais très avant-gardiste sur le sujet. Pour parler justement, pour basculer vers la fin de cette aventure, cette première aventure qui était présente sur Pi, qui après a été c'était Square Habitat, je crois. Après,
oui, ça a été vendu.
Bon, ça a été revendu. Donc là, tu te retrouves avec une première expérience professionnelle d'entrepreneur réussi. Donc, avec cette stabilité, des objectifs financiers atteints, une ambition nourrie. tu passes à ce moment-là à autre chose, tu revends, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, à un moment donné, c'est comme souvent dans le parcours d'un entrepreneur, on arrive à un moment donné où on est sur une crête et il y a, arrivé en haut de la crête, il y a deux chemins.
Et là, tu as 40 ans.
Et là, j'ai 40 ans. Donc, le chemin, c'est continuer, encaisser et faire de l'économie d'échelle. Et donc là, c'est de la gestion humaine dans un métier qu'on connaît bien. Et l'autre chemin, c'est un peu plus disruptif, mais avec de la création et certainement moins de personnel, et retrouver finalement le goût de la création. Et je suis un créatif. Vraiment, je me suis aperçu que j'étais vraiment plus créatif que ça. Et que je préférais, moi, gérer des hommes dans la construction d'un projet, c'est ce que j'aimais le plus, que de les gérer au quotidien et renouveler leur envie tout le temps.
Le management au quotidien.
Ne pas renouveler le congé maternité parce qu'on va gagner 3 francs 6 sous en comptant les boulons. Ça, c'est à un moment donné, ça, c'est le gestionnaire pur que je ne suis pas. L'avantage, c'est
que... Mais que tu as été au départ.
Mais qu'il a fallu être. Et puis, l'avantage en vieillissant, c'est qu'on se connaît. Il faut 15 ans d'expérience d'entreprise pour savoir ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Au départ, quand on commence, on veut être tout. Et on s'invente aussi un personnage. Puis à un moment donné, on connaît ses faiblesses et on se dit, là, je ne suis pas bon, je ne suis pas heureux. Vous faites venir des fois des coachs extérieurs qui vous disent, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il a super raison, ça marche ailleurs, je vais le faire. Puis on s'aperçoit au bout d'un mois qu'on est très malheureux. Je me souviens un jour, j'avais révolutionné mes entreprises, on ne fait que des open space, avec tous les jours des écrans, et puis voilà ce qu'il faut faire, on se filme, etc. Et puis le petit doigt sous la boutonnière, à l'armée. J'étais malheureux, mais malheureux. J'ai tout recloisonné 5 mois après. Les gens ne souriaient plus. Il n'y avait plus la note d'humour du matin. Enfin, c'était l'horreur.
Oui, donc il faut attiser cette curiosité qui est quand même, qui est quand même un élément déterminant dans l'entrepreneur, en tout cas dans le chef d'entreprise aussi. Enfin, c'est vrai pour beaucoup de gens qui veulent se développer. Donc c'est la curiosité. Donc là, à ce moment-là, tu t'aperçois que ta curiosité, elle est un peu mise à mal, que tu as envie de faire autre chose.
Exactement. Et là, je me dis, s'il faut faire autre chose, quelle que soit l'issue, l'une ou l'autre va consommer des capitaux. Donc, et je suis obligé d'en choisir une des deux. Et celle qui m'attirait le plus, c'était la création de projets. Et je ne pouvais pas faire les deux. Donc à ce moment-là,
c'était quoi l'autre ?
L'autre, c'était de continuer à progresser dans l'agence immobilière traditionnelle.
Dans une démarche industrielle.
Voilà, et d'aller dans d'autres villes, etc. Et ça, un jour, on m'a proposé une affaire dans une autre ville, et j'étais à deux doigts, et finalement, elle ne s'est pas fait. Et j'ai dit, tant mieux, parce que je n'aurais pas voulu regérer ça ailleurs. C'est pas ça que j'aime, finalement. Et c'est pas ce que je veux faire dans les 25 prochaines années. Et je n'ai pas l'impression de laisser une empreinte dans mon entourage ou dans ma ville. Voilà, c'est pas ça qui me convenait. J'avais aussi une société à côté qui faisait de la revalorisation immobilière et qui créait des projets. Et je me suis aperçu que c'est là où j'ai aimé passer le plus de temps. Et le contact avec les hommes me plaisait beaucoup plus là parce qu'on co-créait ensemble et qu'il n'y avait pas de notion d'hiérarchie.
Avec un début et une fin, finalement, parce que la notion de projet, c'est qu'on se projette. Alors, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça termine, mais peut-être tu aimais bien ça aussi.
Ouais, j'aimais bien monter une équipe. J'aimais bien monter une équipe, et puis que cette équipe vibre ensemble, que chacun ait sa pierre à porter à l'édifice, et qu'il y ait une fin aussi. Et on s'aperçoit qu'il ne faut pas reprendre forcément la même équipe sur un projet qui suit, puisqu'il y a un phénomène d'usure, mais content de se retrouver des fois 2 ans après. Ça, j'aimais bien ça. Et donc, je vends toutes mes agences. Une opportunité qui est passée, où évidemment il y a une opportunité qui est passée, et un groupe qui est venu nous voir, c'était pas le moment, on était jeunes, on s'est dit bon, on devrait attendre plus longtemps, mais à un moment donné, il faut pas se poser de questions, quoi. L'opportunité était là, fallait la prendre. Donc on vend et on décide pour faire un break. Et puis,
excuse-moi, je te coupe quand tu dis on vend, parce que je fais écho à ce que tu dis avec ton épouse, vous étiez, toutes vos décisions se prennent toujours à deux.
Oui.
C'est intéressant parce que vous êtes un vrai binôme.
Tout à l'heure, on disait j'ai pas d'associé. Si, associé, c'est ma femme. Oui. Donc, c'est une associée à part entière, évidemment. et on est associé tout. On a 4 enfants ensemble, on partage l'autre vie. Donc, toutes nos décisions, elles sont prises ensemble. Et l'avantage, c'est qu'on se connaît bien. Et puis, c'est celle qui me connaît le mieux, qui connaît mes travers et qui sait dans quoi je vais exceller et dans quoi je vais pas exceller du tout.
Et donc, quand je parle de ça, c'est que tu n'as pas de capitaux extérieurs. Vous prenez vos décisions à deux, vous n'êtes pas tenu par des actionnaires. Vous avez une vraie liberté. Voilà. Une liberté à laquelle tu as tenu certainement depuis le départ.
J'y tiens, mais comme la prunelle de mes yeux. Et je me souviens d'avoir un jour, sur un autre projet, avoir eu une rencontre avec notre maire et qui me disait, mais quand vous dites « on », vous avez quel groupe d'ailleurs vous ? Et je lui disais, ma femme et moi, c'est déjà un groupe, nous sommes deux. Il avait beaucoup apprécié. Et donc on prend la décision, nous prenons la décision avec mon épouse et elle n'y prenait plus plaisir, moi non plus. Donc à mon avis, il fallait retrouver quelque chose qui donne vraiment une autre essence. Et puis on se voyait mal, aller continuer dans un projet d'entreprise pendant une 20aine d'années, avec l'effet d'usure. Donc là, on vend. On vend et on vend, et on était quand même dans une crise à l'époque, on était en 2008-2009. Oui. Et on décide de partir vis-à-vis de nos collaborateurs, de ne pas rester dans la même ville, parce que c'était difficile de rencontrer nos clients, nos collaborateurs, qui nous expliquent que c'était mieux, moins bien qu'avant. Enfin, c'est toujours comme ça.
Tiens, d'ailleurs, ça fait un peu penser au regard de l'autre, parce qu'on sait que quand on entreprend, et tu l'as dit un peu tout à l'heure en filigrane, mais il y a quand même ce regard de l'autre, ce regard de, non pas du jugement, mais le regard de l'autre est assez pesant quand on entreprend. Il faut faire attention à son image. Ouais. Et donc, finalement, ce moment-là, tu te dis, bon, je vends, je m'en vais, on va aller prendre l'air. Quoi.
Exactement. Ouais. Et puis, c'était l'idée qu'on disait tout à l'heure, faut pas oublier que c'est une prison, c'est des chaînes qu'on a choisies, dorées, et on a la clé de la prison. Donc, mais entreprendre une entreprise, on commence à souffler le 25 décembre, puis on dit on a sauvé l'année, on se détend entre le 25 et le 1er, et puis quand le 1er janvier arrive, on sait le montant des charges qu'on a, ce qu'il va falloir faire, on sait pas avec qui, comment et dans quel contexte économique on va le faire. Donc... Et on n'a pas le droit d'avoir un moment de fatigue.
C'est important ce que tu dis là, parce que bon, je partage un peu, j'ai un peu une fibre entrepreneuriale, mais souvent on oppose le salarié, et les salariés rêvent d'ailleurs. Et une fois de plus, on peut être entreprenant en étant salarié, il ne faut pas opposer les mondes. Mais c'est bien de dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est indépendant et qu'on est chef d'entreprise qu'on est automatiquement libre.
Et puis on est prêt à tout perdre à chaque fois. Il ne faut pas oublier que chaque fois que vous faites un crédit dans une petite entreprise comme les nôtres, on vous demande votre caution sur tous vos biens propres. C'est-à-dire que vous êtes prêt à perdre votre maison. Ça nous est arrivé de trembler et puis d'obliger de redescendre de trois marches et puis de revenir à une case 5 ans ou 6 ans avant parce qu'il fallait récupérer des capitaux, que ce n'était pas passé comme on voulait, puis qu'il fallait vendre. En catastrophe des choses, il faut accepter ce risque-là. Quand j'ai vu dans les entreprises des fois des collaborateurs que j'avais qui me disaient bah, « j'aimerais bien rentrer dans votre capital, je veux bien », mais je dis « mais est-ce que vous êtes prêt à accepter de partager le risque avec moi ?» C'est-à-dire nos prêts futurs, est-ce que votre épouse acceptera de mettre une caution sur la maison comme la mienne l'exige enfin, parce que si on partage les fruits, on partage les pertes. Ça peut pas être que dans un sens. Donc là, on décide de récupérer. Et pour une fois, on récupère des capitaux. Et pour une fois, on se retrouve libre.
Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté ?
Un grand moment de solitude. Et on s'est dit, finalement, on s'est jamais posé la question. On est au Havre depuis le début, mais est-ce qu'il faut y rester ? Est-ce que c'est la ville où on a envie d'être les 20 prochaines années ? On était dans un contexte politique un peu compliqué. Je vous rappelle que c'était l'arrivée de notre ancien président Hollande. Il disait, entrepreneur, votre place est peut-être pas forcément encore chez nous, sans faire de politique. Mais bon, c'était un climat qui était un petit peu tendu. Donc on décide, pour toutes ces bonnes raisons-là, de se dire, on part faire un projet familial et on part faire le tour du monde pendant un an avec nos 4 enfants. Et on décide. Et finalement, en le décidant, on a plein de contacts avec des Havrais installés à droite, à gauche, et on fait 17 pays en un an.
Donc ça, c'est un an. Vous êtes parti
un an.
Déscolariser les enfants un an. Et...
Le premier avait 14 ans, la dernière devait avoir 3-4 ans. Donc on part un an et on s'est dit, on va récupérer des idées. Puis il y a peut-être un endroit où on se dira, là, il y a une vraie énergie, c'est peut-être là, dans les 20 prochaines années, où on va reconstruire quelque chose. On ne s'interdit rien.
Ta curiosité est exacerbée, ton côté explorateur est mis devant, mais comme d'habitude, un explorateur et un curieux à viser quand même.
Ben voilà. Donc curiosité, et puis de se dire, on va attiser la curiosité de nos enfants. On va partager un moment vraiment particulier avec eux, on va leur ouvrir l'esprit, et de toute façon, quand on reviendra, on sera différents et eux seront différents parce qu'ils ont eu un moment vraiment particulier avec nous. Ils ont eu l'esprit ouvert. On aura eu le temps de faire une vraie tradition orale parce que quand vous êtes partis pendant un an, on ne soupçonne pas le temps qu'on passe dans les transports en commun quand on fait le jour de voyage. Donc on a le temps de parler avec les enfants et puis de faire de la tradition orale. C'est une chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Mais alors là, la tradition orale, elle est ancrée chez nous. Donc les heures sont là. Et on part pendant un an, et pendant qu'on part, et on s'aperçoit que plus on part, et plus on s'aperçoit que tout ce qu'on visite, tout ce qu'on voit, bah finalement, le pays où on veut vivre, c'est notre pays, c'est la France, il n'y a pas plus beau pays, mais il fallait partir. Et surtout que la ville où on a envie de passer les 20 prochaines années, bah c'est le Havre. C'est notre ville.
C'est extraordinaire.
Hein. C'est notre ville. Et quand on vient, on me dit, mais pourquoi t'es revenu ? Le pays est foutu.
Heureux qui comme Ulysse a fait tant beau voyage.
Pourquoi le Havre ? C'est foutu, tout est foutu. Mais j'ai dit, les gars, allez voir à l'extérieur. Vous savez ce que c'est de refaire le monde dans sa langue ? Déjà, c'est extraordinaire. Dans une ville comme la nôtre, avec la mer, avec tout, on adore cette ville. Et quand on vient, on se dit, c'est là qu'on veut. Et c'est là qu'on veut réinvestir notre énergie, etc., et pas ailleurs. Et ça, c'était acté. Par contre, on s'est dit, le projet qu'on va faire aujourd'hui...
Donc le voyage a été fondateur dans votre, dans votre démarche entrepreneuriale, dans votre démarche de vie, pour reconstruire.
C'est évident. Et l'avantage, c'est que le faire à 40 ans, c'est que on, d'abord, même si on récupère des capitaux, ils sont vite mangés si on ne travaille pas. Il faut vite les réinvestir. Et tout projet mérite des capitaux pour, et un temps pour que ça sorte. Donc il faut vivre pendant ce temps-là et faire vivre sa famille. Donc l'avantage de le faire à cet âge-là, c'est qu'on a encore l'énergie, l'envie, puis surtout, on se dit, il ne faut pas qu'on ait fait tout ça pour rien. Il ne faut pas qu'au bout de 4 ans, 5 ans, on dit, bah, finalement, on n'a rien construit. Mmh. Et donc, il fallait qu'on trouve un autre projet. Et on s'était dit, là, c'est les projets qu'on va mettre en place. Là, il y a notre projet, il faut que ce soit à la périphérie de ce qu'on sait déjà faire. Mais en plus, il faut qu'on se dise, ça apporte un truc.
Donc, fierté et sens.
Ouais, ça apporte un truc à notre ville, à notre écosystème. Mmh. Qu'on soit fier aussi de l'expliquer à nos enfants, toujours pareil, la transmission, et puis que...
Et laisser une petite marque dans l'histoire,
il y a laisser une petite marque, se dire, voilà, j'ai contribué à mon niveau, même si j'étais dans un métier d'écrier avant, etc., on peut montrer qu'on peut faire ce métier, et qu'on peut faire des choses comme ça, qui dans notre métier, qui peuvent apporter des choses à l'environnement.
Oui, parce que tu changes de métier, finalement.
Ah ben, on change complètement de métier, parce qu'après, on a cherché, évidemment, ce qu'on allait faire, etc., puis l'idée nous est venue dans un premier temps. On avait une structure déjà à l'époque qui faisait de la revalorisation immobilière. C'est-à-dire que globalement, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du recyclage immobilier. Mais notre truc, c'était d'acheter des bâtiments qui étaient abandonnés depuis 4-5 ans et puis de leur faire changer complètement de vie. Alors, on ne faisait pas quoi. On l'a fait. On a acheté des casernes de gendarmerie. On a acheté des perceptions, beaucoup de perceptions, des fédérations du bâtiment... on a acheté des tours sociales, des choses qui étaient abandonnées depuis des années.
Pour leur redonner une vie.
Pour leur donner une vie.
C'est ce que tu m'as dit d'ailleurs. Tu m'as dit que tu étais créateur d'histoire immobilière. Je trouve ça assez.
Ah, mais c'est un slogan qu'on a inventé il y a 20 ans. À l'époque, on ne parlait pas de ça. Revalorisation immobilière. Et avec beaucoup de bon sens. Et puis.
Oui, donc il y a une vraie implication dans les projets. Ce n'est pas je revends.
On ne sait pas faire ça.
Oui, donc c'est bien de respirer, de trouver une destination au bien et de réinventer une histoire autour de ce bien.
Ah, mais puis. Et maintenant, on a acquis vraiment une expérience de bâtiment. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un site, alors c'est pas forcément Le Havre. Maintenant, c'est de plus en plus Le Havre pur. Mais on a rayonné l'extérieur, Cherbourg, Fougères, Le Mans, toutes les casernes de gendarmerie à Laval. Mais quand on arrive dans un site, c'est vraiment... Le site, il est à nous, il a été abandonné. On sent qu'il est à une âme et on sait qu'on va vivre avec pendant 4 ans. Il va falloir mettre énormément d'énergie. On sait qu'un projet comme ça, il faut peut-être 10, 12, 14 projets avant de savoir lequel on va sortir. D'abord, il faut déjà rassurer...
Ah, donc là, il faut être créatif.
On a intérêt de l'être, puis on n'a pas le choix. On a un total de mètres carrés dans des endroits où, en général, il n'y a pas toujours le potentiel. On sait que ça va prendre du temps. Il faut d'abord raconter une très belle histoire à nos partenaires bancaires parce qu'il faut leur expliquer qu'on a une super bonne idée tout de suite et qu'on sait exactement où on va. Ce n'est pas toujours le cas à l'instant T quand on l'a acheté.
C'est toujours financé d'ailleurs, ces projets-là, c'est toujours financé avec des partenaires bancaires.
Ah bon,
vous ne faites pas ça que sur fonds propres.
Ah bon, ça sera impossible.
C'est impossible.
Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le finance et qu'on va le sortir, on est prêt à perdre. Si on a deux projets qui tombent coup sur coup, on a perdu tout ce qu'on avait. Donc il faut être capable à chaque fois, dans la tête et en famille, de dire, on met tout sur la table.
Donc, ça veut dire que tu es à la convergence de la promotion immobilière, où on sait que ce sont les derniers appartements qui te font faire ta marge sur une opération, et en plus du risque total, où il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait une vraie vie d'entreprise autour de ton projet. Parce que tu peux perdre d'un coup, si derrière tu perds tout, il faut que tes partenaires te suivent, et que l'histoire que tu leur as racontée, ils y adhèrent. Parce que j'imagine que les banques, elles aiment bien rêver, mais je ne sais pas comment ça se passe. Parce que...
Elles rêvent parce qu'elles savent qu'on a un CV, qu'on avait du patrimoine aussi, qu'on avait gardé aussi à côté, qu'on avait l'expérience en travaillant en couple d'avoir traversé plusieurs crises. Qu'est-ce que regardent les banques? Elles regardent de plus en plus, et tant mieux. Elles regardent le CV et elles regardent la capacité de pouvoir changer le projet en cours de route, de s'adapter et d'être capable de pouvoir muter.
Une vraie capacité d'adaptation.
Voilà. Mais c'est ce qu'on demande aussi quand un investisseur investit dans une start-up. Il regarde que l'entrepreneur dans la start-up est capable de changer son projet en cours de route parce qu'il doit, à un moment donné, il va le changer. Que ce qu'il
le
a inventé.
Rebond,
le fameux rebond. Et c'est la première chose que je regarde. Quand moi je dois, avec d'autres, les co-investir dans une start-up, je regarde d'abord l'humain. Est-ce qu'il aura cette capacité d'analyser son environnement, ses premiers clients, ses collaborateurs et être capable de muter?
La compétence acquise et sa capacité à acquérir de nouvelles compétences.
C'est son instinct de survie et puis surtout sa curiosité, sa capacité à regarder ce qui se passe autour.
Donc là, tu deviens un peu architecte finalement, parce que quand tu te retrouves dans ces projets-là, Il faut à la fois avoir une vision communication, marketing, il faut se projeter. Puis il faut aussi des vraies compétences techniques, parce que tu as beau t'entourer, il faut que toi, tu ressentes les choses. C'est toi qui prends la décision d'acheter, quand même.
Alors, par rapport à un promoteur, il achète un terrain, il fait une pré-commercialisation, et s'il n'a pas fait sa pré-commercialisation, il n'est pas engagé sur son terrain. Nous, quand on a acheté le site, quoi. Il est acheté, vous avez 6000 m², quand tu as acheté une caserne de gendarmerie, des prisons dedans, des logements de gendarmes, logements du colonel, du capitaine, des salles d'écoute et des bureaux des années 60... Vous êtes au milieu de votre caserne avec vos...
Non, mais à ce moment-là du projet, tu ne sais pas ce que tu vas en faire.
Ah ben on sait qu'on va en vendre une partie, etc. Mais bien sûr, on a nos expériences. On sait qu'on va en vendre 30%, qu'on va en relouer 30%, et que 30%, il va falloir prendre du temps pour pouvoir le faire muter, parce que le temps que le marché évolue. On sait que quand on achète ces grosses surfaces-là, tout ne sera pas sorti tout de suite.
Ouais. Et mais ça, c'est toujours du logement ou c'est...
Ah non, justement, notre spécificité, c'est de trouver du mixte. Nous, ce qu'on sait faire, c'est ce que les autres ne veulent pas faire. Donc, c'est clair. Donc, faut que ce soit un peu plus gros que la moyenne pour que les investisseurs locaux, patrimoniaux, traditionnels, n'aient pas envie de mettre les mains dedans parce que c'est un peu complexe. Donc, en général, vous avez autour de vous des gens qui savent faire que de l'habitation, que du commercial, que du local d'activité. Ben, l'idéal, moi, c'est des locaux où on fait au moins deux activités parce que comme ça, ça mélange deux compétences différentes. Et puis, vous avez des grosses surfaces aussi qui peuvent attirer des gros faiseurs nationaux. Mais quand c'est de la réa et qu'il y a plusieurs activités à mettre dedans, et que c'est pas assez gros, ils vont pas y aller. Oui. D'où l'importance d'investir sur des marchés de province qui, en général, attirent pas forcément des structures nationales. Ce qui n'est plus le cas au Havre, ça attire beaucoup de structures nationales. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a été obligé de s'exporter des fois dans d'autres endroits. On a été travailler sur des villes comme Laval, Fougères, Cherbourg. En ce moment, on est sur Fécamp, après être sur le Havre, parce que c'est toujours des endroits où l'acteur national ou l'acteur local, il y a une zone blanche entre les deux. Et nous, on aime bien ces zones blanches, ces zones grises.
Voilà. Avec les politiques, parce que aussi, là, il y a tout un travail politique aussi, j'imagine.
C'est évident, tout le monde est content, évidemment, quand on le voit arriver, avec de l'inquiétude aussi, parce que, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que le but, c'est de remettre de la vie dans le site. Et puis pas non plus faire n'importe quoi ou être trop ambitieux par rapport au site.
Écoute, Nicolas, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. On se retrouve juste après parce qu'on va parler du Havre. Et justement, ça sera une bonne transition sur les projets. Il y a des projets incroyables. Donc, on se retrouve après une pause musicale. Est-ce que tu as une musique que tu voudrais écouter qui te vient en tête? C'est quoi la musique de Nicolas?
Éric Satie.
Éric Satie?
Gymnopédie.
Eh bien, c'est noté. On se retrouve après ça. Thank you. Alors, on est de retour avec Nicolas Sarrazin. On a abordé cette première partie de l'interview donc, sur ton parcours. On a bien compris que tu étais un passionné créatif et que tu avais mené un chemin qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais là. Et j'aimerais bien qu'on aborde maintenant la partie un peu havraise, puisque tu disais que tu étais un havrais véritablement de cœur. Même si tu n'es pas né là, tu es un vrai havrais. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as menés ici ? Il y en a eu pas mal, et je crois qu'il y en a un autre en cours. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le Havre d'un point de vue architectural, parce qu'on sait que ça a du sens pour toi, et puis les projets que tu as menés ? Alors, la une, dans lequel tu me reçois aujourd'hui.
Alors, celui qui est souvent le plus connu pour les Havrais et qui était important parce que finalement, c'était la suite de ce qu'on avait fait souvent à l'extérieur, mais on n'était pas connu au Havre sur cette étiquette-là. On était connu au Havre comme étant une agence immobilière, mais on n'était pas connu comme étant des gens capables de mener ce genre d'opération sur des grands bâtiments. Donc la une, c'est un ancien bâtiment, des nouvelles galeries, et avec des réserves qui étaient abandonnées depuis maintenant 4-5 ans. Et quand on est tombé sur ce bâtiment-là, on s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose. Alors évidemment, dans tous nos projets, on avait en tête le coworking.
Mais quand il y avait quoi avant sur ce bâtiment-là, pour rappeler un peu
À toute l'origine du bâtiment, ce bâtiment est situé rue Victor Hugo, à côté de la Galerne. À l'origine, c'était les réserves, et puis c'était une partie réserve pour la nouvelle galerie, et puis il y avait une partie magasin. Ouais. Et puis, entre-temps, il y a eu des magasins de cuisine, des magasins de jouets, qui ont... Oui. Entre-temps, il y a eu connexion, et tout ça, ça a été arrêté depuis quelques années, et puis le bâtiment est à l'abandon, mais vraiment à l'abandon. Et donc, quand on a racheté ce bâtiment-là, une fois de plus, on achète le bâtiment, on est attiré par le potentiel, et après, maintenant, il faut trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours la fameuse question. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, on avait toujours... Là, c'était vraiment l'état d'esprit que je décrivais tout à l'heure. Un projet qui a du sens, qui apporte une activité innovante, qui touche à l'immobilier et dont le Havre a besoin. Et y trouver une logique économique. Et là, c'était exactement ça. Et puis un projet en commun, parce que ma femme a besoin aussi qu'on soit complètement, que ce soit son projet aussi à elle. Et donc c'est un couple d'entrepreneurs, donc chacun il doit y trouver son épanouissement. Et l'idée du coworking nous est venue. Alors au départ, on s'est dit, bon, le coworking, ouais, parce que s'il y a du potentiel... toujours pareil, c'est la fameuse pub de Renault qui dit « mais ça ne marchera jamais ». On a été voir des acteurs nationaux, des acteurs régionaux. Ils nous ont dit « est-ce que vous voulez venir le faire avec nous ? Est-ce que vous voulez venir ?» Et à chaque fois, ils nous disaient « ça ne marchera jamais au Havre ». Donc, et là, il n'y a que des entrepreneurs locaux pour faire ce genre de projet. D'abord, il n'y a que les banques.
Ressentir la ville, ressentir les choses.
Avoir ces réseaux locaux, etc. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu notre implication au Havre et on n'était pas aussi impliqué au Havre, je ne pense pas qu'on aura pu sortir ce genre de projet. Donc il était fatalement ambitieux, un projet très ambitieux pour une ville de province. On a sorti 1500 m² de bureaux, de coworking, de salles de séminaire, avec un niveau de décoration, d'aménagement bien au-dessus de ce qu'on trouve d'habitude.
Ouais, je confirme, c'est vraiment de l'excellence. Enfin,
On a été loin. Et puis avec... dans le cahier des charges, une vraie volonté de mettre une touche de rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'on devait voir l'histoire du site et que ce ne soit pas un site lambda qu'on aurait pu trouver dans une autre ville. Donc quand on arrive ici, on doit savoir qu'on est au Havre. Et qu'il y a une histoire du Havre qu'on trouve dans le café, dans le port, dans le Perret, dans la voile, tout ça, on doit le voir en bas. On doit avoir des touches d'objets anciens et puis un endroit où on se sente bien pour se retrouver, entreprendre. C'était une hôtellerie de charme ou une pension de famille d'entrepreneurs. On s'est aperçu qu'on avait comme au projet aussi, on voyait que beaucoup de gens revenaient au Havre et qu'il fallait un endroit pour les accueillir. Mais qu'il y avait beaucoup de gens qui créaient aussi et qu'il y avait des entreprises qui avaient besoin aussi de ça.
Donc voilà. C'est la convergence du projet entrepreneurial, de dire il faut qu'on trouve un projet avec une destination économique et... quand même ce projet à la fois immobilier et structurant dans l'histoire qui t'a essayé de faire, enfin vous avez réussi à faire converger les deux.
Exactement. Et donc on l'a lancé avec une vraie mission de se dire demain, notre objectif c'est quoi ? C'est que la Une fasse partie de l'écosystème d'entreprises havraises. Qu'il apporte un truc, qu'il puisse permettre des créations d'entreprises, des rencontres humaines, des développements de business, des implantations... Et c'est ce qu'on a fait.
Oui, ça va au-delà de l'effet de mode du coworking qu'on a pu voir naître, et pour cause depuis le Covid, de plus en plus. Mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment de créer une communauté.
Exactement. Enfin, aujourd'hui, on a 200 personnes qui sont adhérents chez nous. Il y a une trentaine de sociétés qui sont installées à l'année. On sait que ça génère une cinquantaine de créations d'emplois dans notre site. On a beaucoup de jeunes qui arrivent parce que c'est un endroit où on recrute facilement parce que c'est super pour commencer à travailler dans ces conditions-là. On a énormément de stagiaires. Beaucoup d'entreprises qui viennent s'y réunir sur des formats de 8 à 15 personnes. C'est la moyenne de ce que l'on trouve, qui viennent toutes les semaines. Donc, c'est un endroit où beaucoup de gens se retrouvent. Et on est vraiment maintenant installé, c'était ce qu'on voulait, dans notre écosystème. Et on a rénové un bâtiment qui était abandonné, où les gens, quand ils passaient dans la rue, ils changeaient de trottoir tellement il était moribond. Et on a eu une gageure là-dessus. On s'est dit, il faut qu'on apporte de la végétation dans une rue où il n'y en avait pas. On était quand même exposé plein nord sur un bâtiment péré.
Oui, c'est, il faut, une fois de plus, il y avait un défi à relever.
C'était pas si facile, avec des locaux poubelles à l'entrée. Faire une terrasse végétalisée, faire monter de la verdure sur toutes les façades, sur des poutrelles béton, convaincre les bâtiments de France que, de toute façon, on n'allait pas abîmer quoi que ce soit parce qu'on était sur le site et que si la plante n'arrivait pas à pousser, on la changerait ou on arrêterait et on boucherait les trous. C'est pas donné à tout le monde parce que personne n'y croyait. Depuis, on est content de voir qu'il y a de la verdure partout dans la rue. Vous regardez dans les balcons, la verdure appelle la verdure. Et les gens s'y sentent bien. On a même fait rentrer la verdure dans le bâtiment pour que les gens travaillent sous la verdure. Donc c'est vraiment devenu notre marque de fabrique.
Oui, c'est un beau pari. Tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on parlait du Havre. C'est que le Havre a son identité UNESCO. Mais c'est finalement aussi très compliqué quand tu veux faire bouger un peu les lignes architecturales et entrepreneuriales sur ces bâtiments. Parce que c'est très contraint finalement.
C'est très contraint. En même temps, c'est très souple parce qu'on a des structures qui sont faciles à aménager.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
Et puis,
c'est peut-être une bonne chose. Mais...
Et puis, il y a de la poutraison qu'il faut respecter. Mais bon, en tout cas, le projet a été sorti. Il a été une vraie carte de visite pour nous. Ça a permis aussi de mettre en... Ça a été aujourd'hui une forme de showroom pour montrer ce qu'on savait faire. Et puis, un vrai laboratoire d'idées parce que là, on s'est amusé.
Et puis, parce qu'une fois qu'il y avait ça, il y a la recherche effectivement du bâtiment, donc tu étais tombé là-dessus. Ouais. Et après, si je me souviens bien, il y a eu des appels à projets sur des nouveaux bâtiments, et c'est là où tu t'es.
Alors après, on s'est servi de ça. Il y a eu une deuxième étape entre-temps, on s'est servi de ça, et on s'est dit, il y a une deuxième activité dans laquelle on est vraiment bien, et on aime bien on est très commerce. Donc on aime bien, parce qu'on pense que le commerce, c'est le patrimoine vivant d'une ville. Et alors, nous, on y a toujours cru, on a toujours développé le commerce, et on est des commerçants de base. Une agence immobilière, c'est des commerçants. Et donc, avant le Covid, on a toujours développé et voulu reprendre des commerces qui étaient abandonnés. C'est vraiment notre cœur de cible. La une est une forme de commerce. Alors, c'est vrai qu'on a été, à un moment donné, plébiscité par rapport à ça, parce qu'on s'est accroché à des rues comme la rue René Coty, où, une fois de plus, on avait plein de commerces qui étaient abandonnés. Mmh. Je crois qu'à un moment donné, sur une centaine de commerces, il devait y en avoir 30 à un moment donné qui étaient vides.
Je connais bien le sujet, effectivement. Vous avez,
Et là, on est parti à l'assaut en disant on va racheter le maximum de commerces qui sont abandonnés et on va se battre pour les rouvrir un par un, changer les vitrines, donner envie et partir à l'assaut. Alors,
et là, excuse-moi, tu parles de la rue René Coty, Maréchal Joffre.
Toute cette rue-là.
Jusqu'au rond-point, finalement.
Exactement.
Donc votre projet, c'était de redonner, enfin de se diriger vers ce format qui est le commerce de proximité,
oui.
et de un par un reprendre un peu ces,
exactement,
et de le réhabiliter pour lui redonner une vie économique ou une vie ne serait-ce
économique. Économique. Et puis on s'est aperçu qu'on commençait à avoir des commerces qui commençaient à fermer, puis on commençait à mettre des murs de parpaing avec une fenêtre PVC, et puis c'était devenu une habitation. Et une fois que vous avez tué un commerce pour mettre une habitation, c'est fini. Un commerce, il change de main, il change de vie. Il mute en fonction des évolutions de la société, mais ça doit rester un commerce, il ne faut pas le transformer en habitation.
C'est un vrai pari quand même. Hein.
Ah bah, une fois de plus...
Tu raisonnes à 15 ans là-dessus.
On avait des gens autour de nous qui nous disaient à chaque fois, mais ce fut une grande artère. Mes grands-parents m'y emmenaient faire leurs courses.
À l'époque de la plastière.
Les grands-parents, on a plein de souvenirs. Donc là, on a bien vu ce que c'était qu'un patrimoine vivant. Mais maintenant, mon cher monsieur, vous êtes bien fou. Et chaque fois qu'on lance un jour de projet, on sait qu'il faut d'abord faire venir des gens d'extérieur. Donc on a beaucoup travaillé pour faire venir, notamment, c'est les Rouennais, ces quatre commerçants rouennais qui, eux, n'arrivaient pas avec les mêmes a priori, qui ont ouvert avec nous des boulangeries, des commerces de bouche. On a eu des traiteurs libanais, des traiteurs japonais. Et là, on a commencé 1, 2, 3, 4. Et puis aujourd'hui, on est arrivé au 13e commerce.
Ah oui.
Et du coup, d'autres investisseurs sont venus à nos côtés. Du coup, le mouvement appelle le mouvement. Et puis là, on peut dire que la rue, aujourd'hui, elle est repartie.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique. Voilà. Tout ça a été refait, en plus il y a les nouvelles halles.
Exactement. Y a une vraie, on y a mis notre petite pierre. Après, c'est pas nous qui avons fait repartir la rue, mais c'est le fait de dire nous, on y croit et que ça donne une impulsé. Envie à d'autres. Ça impulse. Puis après tout, on est des locaux, si on y croit, c'est qu'on va se donner les moyens d'y croire et puis on va attirer d'autres personnes. Donc ça, c'était notre deuxième projet. Notre troisième projet, qui nous occupe beaucoup en ce moment, grâce à la Une, il y a eu un appel à projet par la ville qui a mis plein de bâtiments sur le marché et qui était un appel à projet, qui était un appel à projet national, voire international. Et on a été une des seules équipes, on va dire, d'artisans locaux dans notre domaine à récupérer un projet.
On va dire les artistes de l'étape.
Voilà, donc, parce qu'on a pris un projet que les autres ne voulaient pas prendre, parce que pas assez gros ou trop gros pour certains, et on avait une idée folle. Et puis, une fois de plus, si on fait ce métier, c'est qu'il faut rêver. Je veux rêver tous les jours, je veux rêver avec des gens. Faire ce métier-là, faire des projets, c'est l'occasion de rencontrer des artistes, des gens qui sont dans leur domaine. C'est l'occasion de rencontrer des équipes avec des expertises complètement différentes. Je suis toujours très impressionné de tous les hommes et toutes les compétences qu'on peut trouver au Havre. Et il faut qu'on mette des projets de plus en plus sur le Havre pour faire permettre à toutes ces expertises de se développer, d'avoir des carnets d'adresses, de travailler ensemble, d'aller chercher et d'aller conquérir des marchés à l'extérieur. Et on a vu quand on avait fait la Une, tous ceux qui ont travaillé à la Une ont commencé à travailler ensemble et ont été chercher des marchés. Ils ont pris confiance, ils s'en sont servis comme étant une vraie marque de fabrique. Et voilà, et on continue comme ça sur tous nos projets. Et là, le nouveau projet, on a décidé d'aller un peu plus loin.
Donc, ce que tu dis là, c'est de la convergence d'ingénierie financière, technique, marketing. Enfin, tu veux créer une vraie place de marché pour que ça devienne aussi demain cette capacité à aller s'exporter.
Bien sûr. Mais tous les gens que moi, on fait travailler dans nos entreprises, parce que notre règle de base, on n'est pas tenu, nous, par des marchés européens. Hein. Mmh. Notre règle de base, c'est que nous, on fait travailler à l'écosystème local. Donc la première question que je pose, c'est est-ce que vous avez une domiciliation au Havre ? On va commencer par ça. Est-ce que vous embauchez des gens du coin ?
Oui, parce que ça contribue à faire que demain, le Havre, parce qu'à force d'aller chercher des compétences, si on n'a pas les compétences, il faut bien aller chercher ailleurs, mais c'est vrai qu'une ville ne se développe, si on veut lui donner la perspective, qu'avec l'envie de venir s'y implanter et de travailler pour ses concitoyens et pour l'écosystème dans lequel tu évolues.
On développe des commerces. On est une structure qui s'appelle La Une. Tout ce qui se passe en centre-ville, on doit faire travailler tout le monde. Donc, il faut que les gens pour qui on fait faire du travail, ce soit des gens qui consomment demain dans nos commerces. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller notre argent ailleurs. Enfin, c'est complètement...
Oui, il faut commencer par ça, et puis après...
Et puis, quand il y a un problème, et que c'est des locaux, où il y a aussi, sur les chantiers à un moment donné, ou sur les réalisations, quand des fois c'est un peu plus compliqué financièrement, il y a aussi cet argument de dire, messieurs, quand vous passerez devant demain avec votre famille et puis vos collaborateurs, vous devez être fiers de bomber le torse et de dire... Cette cathédrale, on l'a fait, quoi. C'était pas simple. Il y a eu des mauvais moments, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de tension. Mais à la finale, on l'a fait.
Alors, parle-nous un peu de cette cathédrale. Elle s'appelle comment, cette cathédrale ?
Alors, le dossier s'appelait Chez ma tante, parce que c'était l'ancien crédit municipal du Havre. Ça, c'était le nom technique, mais on va dire que le nom marketing, c'est Hyde Park, parce qu'on est sur une place qui est juste à côté des Halles. On a un bâtiment qui était une ancienne...
À côté du lycée Porte-Océane, c'est sur la place du lycée Porte-Océane.
Et puis entre l'ancien EMN et Porte-Océane. Mmh. Et là, on avait un bâtiment qui était un bâtiment qui servait de stockage sur sept étages et de bureaux sur trois étages, un peu comme une chaise, un bâtiment des années 50. Et notre projet, c'était de dire, on va garder le principe du bâtiment, mais on va garder les façades, on va le restructurer de A à Z, et on va lui faire passer de la verdure. C'est-à-dire, globalement, on va surélever le bâtiment, on va rajouter des terrasses végétalisées, on va rajouter des jardins, mais pas du greenwashing, on va pas faire semblant d'eux, on va rajouter vraiment de la terre et de l'herbe. Et puis, on va lui donner un projet un peu fou, on va lui mettre un arbre au quatrième étage. Et alors là, tout ça sur le papier, c'est super, on est entre nous.
On en plaisantait, mais on disait que les arbres montent pas au ciel, sauf que toi, tu arrives à les faire monter au ciel.
Alors après, il y a deux types de projets, il y a ceux qui se décident autour de... D'un dessin et on est tous contents d'avoir eu la bonne idée puis après le lendemain on déchante un peu quand on a eu les coups puis on le fait pas puis il y a les projets comme ça, on se bat pour que ça sorte même si c'est compliqué et celui-là il a été vraiment compliqué, on a gagné le projet donc on a été élu dans Réinventer le Havre, déjà très fier d'être la première équipe havraise avec des compétences havraises pour pouvoir emporter ce projet. Et avoir envie depuis le début qu'on sorte quelque chose d'exceptionnel. Qu'il soit demain référent comme étant un bâtiment où on a l'impression qu'il a toujours existé, qu'il a toujours été là. La marque de fabrique des bâtiments, c'était pareil, du rétrofuturisme. On doit voir l'histoire du Havre et on le voit s'inscrire dans l'avenir. C'est la mutation architecturale du Havre, c'est son histoire. La deuxième signature, c'était d'y voir trois activités dedans, de l'habitation, des bureaux et du commerce.
Aujourd'hui, Donc, tout ça va y avoir.
Il va y avoir des commerces en bas, des bureaux au premier étage et puis des habitations. Et notre troisième signature, c'était de dire, dans l'habitation, il faut que ce soit des appartements qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça va de 120 mètres carrés jusqu'à 240.
Mais ce qui est au Havre est très rare. Parce que
on ne trouve pas. Des appartements d'exception où on se dira plus tard, il fallait oser les faire. Ils existent. Donc il y en a un, il a un jardin de 300 mètres carrés avec un arbre. Un autre, ça, on dirait un penthouse new-yorkais, il a des plafonds de 3,30 m de haut sur une terrasse de 50 mètres carrés. Voilà. Et puis,
ce qui est extraordinaire chez toi, c'est qu'on sent toujours ce besoin de marquer l'histoire, mais sans égocentrisme aucun d'ailleurs. On sent que tu fais ça de façon très altruiste pour le bien d'une communauté. Mais c'est vrai que les projets d'entrepreneurs, et au sens large, c'est aussi ce don, parce que c'est donner de ton énergie sur quelque chose qui soit finalement rendu au commun. Chaque personne va pouvoir en profiter, parce que c'est vrai que c'est un...
Je veux que ça serve au local. Mmh. Alors, formidable si des gens savent développer l'international, moi je sais pas. Mmh. je veux que ça serve au local. Voilà, je veux le voir, je veux que les gens passent devant... Je veux te dire, quelque part, j'ai laissé une trace, quelque part, l'immobilier sert à ça. C'est très terre à terre, hein, il n'y a pas de rêve là-dedans.
C'est très bon pour la ville, parce que ça permet quand même de créer quelque chose de très positif. Justement, à ce sujet-là, est-ce que toi, au-delà sur ce projet-là, est-ce qu'il y a un bâtiment qui pour toi est emblématique, qui te touche? Par rapport à, ce sont des bâtiments que tu crées, mais un bâtiment emblématique de la ville du Havre.
Dans ceux qui ont été réalisés.
Dans ceux qui ont été réalisés, effectivement, on connaît les bâtiments emblématiques, entre la mairie, le volcan, Notre-Dame ou la cathédrale Saint-Joseph. Est-ce que dans ces bâtiments-là, il y a peut-être d'autres d'ailleurs.
Alors moi, je suis très attiré par Saint-Joseph. Je trouve que c'est une réalisation magnifique, je ne m'en lasse pas. D'ailleurs, sur Hyde Park, on a fait en sorte qu'à chaque fois, il y ait des vues sur Saint-Joseph. Je trouve que cette traversée de lumière...
C'est notre tour Eiffel.
Je trouve simplement dommage que dans le cœur, ils aient rajouté un dôme, mais je trouve que ces lumières qui passent à travers à n'importe quelle heure, je trouve qu'on a bien mis en valeur les places qui sont autour. C'est vraiment un phare dans la ville. Je trouve que c'est un vrai plaisir, renouvelé à chaque fois, avec des couleurs différentes. Elle n'a pas vieilli, elle est devenue encore plus contemporaine qu'à l'époque. C'est une vraie chance. J'ai des gens de l'extérieur qui viennent, je les emmène à Saint-Joseph. Ces sièges claques un peu penchés qui donnent sur le spectacle du chœur. Enfin,
c'est vrai que ce mélange-là est incroyable, entre le côté un peu suranné, le côté majestueux, parce que c'est vraiment un bâtiment qui est incroyable.
Ah non, c'est un... Et en même temps, il est très contemporain. Enfin, puis il a un côté Empire State Building. Enfin, voilà, on le voit de partout. Enfin, pour moi, c'est... La Catène, maintenant, est devenue un monument. Mais Saint-Joseph, on est un aussi. Hein. C'est
une vraie signature.
Ouais, c'est une belle signature, ouais, qui a été bien mise en valeur ces derniers temps, je trouve.
On va conclure notre interview. J'ai une dernière question sur c'est quoi le Havre dans 20 ans pour toi? Alors, tu seras forcément un artisan, on comprend de sa mutation, mais si tu devais avoir une ou deux phrases pour définir ce que tu aimerais que le Havre soit et formuler quelques vœux sur l'avenir de notre ville.
Alors, moi, je suis très intéressé par le fait que le Havre s'ouvre de plus en plus à des pôles universitaires d'excellence.
Ce qui a déjà été initié, d'ailleurs.
Exactement. Et ça, moi, je trouve que c'est une excellente voie. Je trouve que toutes les villes qui se sont développées, ils avaient trois choses. D'abord, ils avaient la mer, c'est important. On a su l'exploiter, on a su la mettre en valeur. Il y a une lancée qui est passée pour que le port se développe, les châtières, les structures, etc. C'est important que le port du Havre soit vraiment inscrit dans la continuité de Paris. Ça, c'est vraiment une continuité. J'espère qu'on arrivera avec... nos transports en commun, etc., trouver ces solutions-là. Mais je pense que c'est mon vœu le plus cher. Le deuxième vœu, c'est le Havre a besoin de se renouveler dans ses activités. On s'est construit sur le port et sur les activités pétrochimie.
Du service.
Il nous faut des autres activités qui arrivent. Elles sont en train d'arriver. pour alimenter ces activités, il nous faut des pôles universitaires. Et aujourd'hui, on avait des pôles universitaires ou des pôles d'école qui étaient très bien, mais un peu trop axés sur l'international, donc avec des gens qui ne restaient pas chez nous. Donc on a besoin de pôles techniques, pour moi, pour qu'on trouve après des entreprises qui aient envie de venir là pour recruter et que les étudiants qui ont découvert le Havre, comme moi, j'ai pu... et des opportunités de rester, de créer leur entreprise ou de trouver du travail sur place.
S'implanter.
Et on a besoin de cette excellence-là. On manque aussi de sièges sociaux, on manque de grandes représentations, on le sait. Mais à ce moment-là, bah, il faut qu'on ait des entreprises qui se créent de plus en plus. Et...
Bon, après, il faut de la place pour les installer. Ça, c'est un autre sujet. C'est là où le Havre, au sein de la Normandie, on voit bien qu'il va falloir que... Maintenant, on n'a plus qu'un seul nom, c'est la Grande Normandie. Mais il y a aussi le problème du foncier. Il faut installer ces entreprises.
Bien sûr.
Bon, il nous en reste... un peu, quand on s'en va vers le pont de Tancarville, mais...
Puis, il y a des discussions qui vont s'engager de plus en plus dans le développement du Havre sur le port autonome, on est évident, il y a encore des terres un peu disponibles, puis on est en train de rationaliser nos mètres carrés. Ce qu'on a découvert dans le coworking, dans les bureaux partagés, nous permet de rationaliser des mètres carrés, c'est évident. Mais on a eu un développement qu'il faut saluer. Quel bonheur, pour des entrepreneurs comme je suis, d'avoir pu participer à un tel rayonnement de la ville, d'être un ambassadeur forcené, mais en ayant des fois du mal à le vendre et en surjouant pour pouvoir parler de notre ville, et aujourd'hui il n'y a plus besoin de surjouer, de voir des gens de l'extérieur venir avec autant de plaisir, de voir autant de gens qui viennent s'installer chez nous, de sentir le rayonnement de notre ville comme jamais on l'a senti, de voir ce côté agréable de vivre pour des familles... en centre-ville, cette implication de la mer. Enfin, moi, j'aurais jamais rêvé, quand j'ai commencé dans mon métier au Havre, où je me souviens qu'une des premières scènes auxquelles j'avais assisté, c'était un film sur le père Populosco, qui était à l'église Saint-Joseph, et je lisais dans le magazine Première à l'époque, authentique décor stalinien. Et là, je me disais, j'arrivais dans la ville, je me disais, bon, je sais pas si je vais y rester, mais mince, la verdure, elle n'existait pas. Hein. Puis la mer, elle était un peu oubliée de nous. Hein. On était un petit peu, enfin, on l'avait pas vraiment intégrée dans la ville. Quand je vois comment mes enfants aujourd'hui vivent, le plaisir qu'ils ont à revenir voir leurs amis et à s'installer, etc. Et je sais que mes enfants aujourd'hui reviendront au Havre, vont s'installer. Je les forme pour qu'ils aillent à l'extérieur pour dire, allez vous former pour revenir nous aider à développer cette ville. On a besoin.
C'est vrai qu'il y a une vraie génération. On a des enfants du même âge. C'est ce retour et cette appropriation chevillée au corps est très intéressante parce qu'ils ne sont pas du tout comme on a pu nous l'être. Dire bon, on va peut-être aller voir ailleurs. Ils sont très attachés. Nous, on nous avait promis, le développement s'est fait. C'est vrai que la génération des gens qui ont 20 ans aujourd'hui sont tout à fait...
Donc moi, je suis très, très... Enfin, je suis un optimiste de nature, mais il y a une quinzaine d'années, j'entendais toutes les familles qui avaient eu les moyens de bien former leurs gamins, mais leur prenaient comme bon sentiment de partir loin, loin, loin à l'étranger et de se gargariser en disant qu'ils avaient des enfants qui avaient bien réussi parce qu'ils étaient tous installés aux quatre coins du monde. Et je disais, mais je la garde avec une pauvreté. Mais si vous les voyez jamais, vos enfants, puis qu'ils apportent rien à la ville, mais il n'y a aucune réussite là-dedans. Super. Il n'y a pas de réussite pour moi d'être loin de ces enfants. On les a formés pourquoi? Parce qu'ils ont été formés dans notre ville. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit cette génération qui va revenir. Et je suis très confiant sur cette génération qui va revenir.
Porteuse de projets.
Formée, porteuse de projets, etc. Alors, si en plus, on a des pôles universitaires d'excellence qui sont en train de se développer autour du technique, des écoles d'ingénieurs, dans des nouvelles technologies qui peuvent permettre aussi à des industries comme les entreprises de pétrochimie de trouver une deuxième voie, d'investir dans ces laboratoires, dans ces formations, d'être des partenaires, parce qu'il va falloir qu'ils aient une deuxième vie à un moment donné. Si tout ça, ça se met bien en place avec un développement du port, je suis confiant sur les générations à venir et sur le renouveau de notre ville pour nos enfants. Parce que...
Avec l'intérêt aussi d'avoir des entrepreneurs seniors, quand on commence à vieillir, qui pourront les accompagner justement dans ces projets-là.
Bien sûr.
D'écosystème,
c'est les deux. On est dans une époque formidable. Parce qu'on a une notion aujourd'hui de territoire. C'était un vilain mot avant de dire le territoire, notre ville... La Normandie, voilà. Moi, quand je parle avec mes enfants, je dis vous êtes havrais, normand, français, européen, monde, universel. Mais voilà, il y a des hiérarchies. Vous ne trompez pas dans la hiérarchie. Voilà, c'est.
Oui. Mais... En plus, on ne peut pas dire que tu n'as pas voyagé puisque tu as fait le tour du monde.
Donc, je l'assume. Je peux dire comment c'est ailleurs. Hein. Puis j'en ai rencontré des havrais installés ailleurs qui vous dit c'était formidable, j'ai bien fait de le faire. Puis au bout d'une deuxième soirée et quelques boissons, bah, on voit bien que c'est moins simple que ça. Donc non, voilà, aujourd'hui on a cette chance-là. On a vraiment cette chance-là qu'aujourd'hui, parler territoire, ce n'est pas un vilain mot. Et puis surtout, on a des financiers, c'est-à-dire qu'on a des banques aujourd'hui qui ont des puissances de feu locales et qui pensent territoire. Qu'ont des délégations.
On parle de la PPI notamment, j'imagine.
Enfin, la PPI, mais pour pas
les citer. L'ADN, la région. Voilà.
On peut penser des gens comme Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel, qui ont maintenant des puissances de feu, toutes ces banques régionales, qui ont aujourd'hui des puissances de feu et qui résonnent territoire. Et un des critères, quand ils analysent un dossier, c'est le CV, le profil, et nous, on en profite bien. Et puis, est-ce que ça apporte quelque chose au territoire? Parce que ça fait partie aujourd'hui de leur code d'analyse.
L'aménagement du territoire et de ça.
Exactement. Et ils ont tous créé ces structures-là. Aujourd'hui, ils sont tous récupérer des fonds pour créer eux-mêmes des foncières, pour investir dans le territoire. Il y a une chose qu'on n'envisageait même pas, il y a encore 15 ans, quoi. C'était même 10 ans, c'était un gros mot. Et on n'arrivait pas à faire venir des gens de Paris pour investir dans notre ville, parce qu'il n'y avait pas 400 000 habitants. On avait beaucoup compté les poissons, mais ils ne voulaient pas en tenir compte. Donc on a essayé, mais ça ne marchait pas. On était bons vendeurs, mais on faisait ce qu'on avait. Donc on avait l'illusion. Mais ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants à qui ils vont dire voix grand, le conseil que je leur donnerais, mais n'attendez pas. N'attendez pas de penser que c'est bon moment. Il n'y a jamais de bon moment, c'est quand vous le sentez. Et puis, faut entreprendre quand on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Quand on a déjà 3 enfants en études et puis un train de vie.
La liberté.
La liberté, c'est trop compliqué. Donc, faites le plus tôt possible.
Bah écoute, on va terminer sur ces notes positives. De toute façon, que tu es définitivement un optimiste, un positif. Donc, et avant de terminer tout ça, donc tu viens de donner quelques conseils, la liberté, entreprendre, prenez des risques. Après, de toute façon, la vie se chargera de vous et faites de la vie ce que vous voulez en faire. Est-ce que tu peux me dire, toi, quel genre de girafe tu es? Tu es une girafe havraise, puisque maintenant tu fais partie de la communauté. Et je pose cette question-là à chaque personne que j'interviewe. Je voudrais savoir quelles girafes ils sont lorsque tu es... Alors, j'ai eu des girafes festives, je ne sais pas ce que tu es. Comment tu te définirais?
Ah, moi, je suis une girafe altruiste.
On l'avait pas encore dans notre communauté.
j'ai besoin de l'autre. Je fais tout ce que je fais, je le fais pour rencontrer des gens. Et je suis très content de faire des nouvelles rencontres à chaque fois. J'ai besoin de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai besoin de rencontrer des gens passionnés, j'ai besoin de rencontrer des gens qui sont bien dans leur domaine. J'adore l'autre. J'aime l'autre. J'aime l'autre dans sa diversité. Mais j'aime l'autre dans le travail, la passion. Parce que je trouve que le travail est un magnifique outil pour réunir plein de différences sociales, ethniques, et que dans le travail on se respecte tous et tout le monde le fait bien et qui va dans qui l'œuvre dans le bon sens.
Bah écoute, belle conclusion. Je tiens à te remercier, Nicolas, pour le temps que tu nous as consacré. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à écouter ce podcast. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur notre site internet radiogirafenormandie.fr. Les diffusions se font le mercredi de 7h30, midi et demi, 17h30 et 22h30. Un grand merci. Merci, Nicolas, du temps que tu m'as octroyé.
Un plaisir.
Et on se retrouve très vite sur Radio Girafe.
Au revoir, Radio Girafe.
À bientôt.